Avant de démarrer cet épisode, laissez-moi vous présenter un de nos partenaires, le Centre d'enseignement supérieur pour adultes, j'ai nommé le CESA près de Charleroi. Le CESA accueille chaque année près de 600 adultes qui souhaitent reprendre une formation ou continuer à se former dans l'aide à la personne. Le CESA est une école vivante, humaine et engagée. Elle forme des futurs acteurs sociaux en mêlant théorie et pratique, développement professionnel et identitaire, et en attachant beaucoup d'importance à l'ajustement de la formation aux réalités du terrain. Le CESA forme des professionnels avec l'aide de professionnels. Massimo, mon invité que vous allez entendre dans quelques secondes, fait d'ailleurs partie du corps enseignant et je peux vous assurer qu'en découvrant son parcours et sa personnalité, vous aurez envie de participer à ses cours. Alors n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux formations proposées sur le site du CESA, www.cesa.be. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vincotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. « J'aime mon métier », c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Afin de mieux comprendre la psychomotricité, nous accueillons aujourd'hui Massimo. Ce carolo d'adoption travaille dans un centre pour enfants sourds avec une psychopathologie. Dans son job, il court, il saute, il grimpe, il se roule par terre. Mais derrière ces jeux en apparence enfantin, rien n'est laissé au hasard. Avec ses compétences scientifiques, il participe au développement global de ses enfants, en plaçant le corps et l'esprit au même niveau. Face aux affronts de certains politiques, Massimo a choisi l'action. Depuis plusieurs années maintenant, il mène un combat pour la reconnaissance de son métier paramédical. Dans la relation à l'autre, l'authenticité est son moteur. Il nous confie que dans ce métier, on va apprendre sur soi dans le service à l'autre. N'est-ce pas finalement la meilleure des écoles ? À vous de juger. Bonjour Massimo.
Bonjour.
Comment tu te sens ?
Ça va, content d'être là.
Bienvenue.
Merci.
Je te propose de te présenter et de nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui.
Alors, je m'appelle Massimo Majorana. Alors, je suis psychomotricien. Je travaille dans un centre pour enfants sourds ayant une psychopathologie. Je travaille aussi chez moi en libéral. On est une équipe, pour le moment on est trois, mais on sera peut-être quatre, cinq d'ici peu. J'enseigne aussi dans le bachelier, dans plusieurs écoles. Je suis président de l'Union professionnelle belge des psychomotriciens francophones. Et donc voilà, là, on travaille vraiment à la reconnaissance du métier, à aider aussi les praticiens à réfléchir sur leur métier, etc. Donc voilà. J'ai 33, bientôt 34. Je suis né à Bruxelles, mais je vis maintenant depuis quasiment 10 ans à Charleroi. J'ai deux enfants, famille d'accueil. Je suis marié. Et voilà.
Top. On a rencontré une psychomotricienne super inspirante, Andrea, dans toute la route de J'aime mon métier. Elle nous disait avoir été un jour appelée de magicienne. Est-ce que toi, tu te souviens de situations très concrètes avec des résultats, justement, d'enfants que tu as pu aider ou accompagner ?
Oui, c'est souvent, hein, quand on parle de la psychomote, il y a un aspect un peu magique, alors que non, quand on décortique, il y a plein de choses. Comme je disais, il y a l'aspect scientifique carré, cadré qui est là. Mais c'est vrai que quand on regarde ça ou quand on explique ça, ça fait un peu boum, la chose, elle apparaît par magie. Et c'est vrai que dans le centre où je travaille, après, il y a l'aspect pluridisciplinaire, mais quand même, un jeune enfant de 7 ans, non-verbal, autiste, sourd, qui un jour, un matin, en accueil, justement, on fait la litanie des jours en disant lundi, mardi, enfin avec une petite comptine, une petite chanson, enfin une chanson signée, qui pour la première fois se met à chercher ses doigts et qui se met à faire vraiment le signe du jeudi. Et ce qui était vraiment hyper prenant et vraiment qui était ce côté un peu magique, c'était de voir comment en fait, en un seul geste, il venait intégrer tout ce qu'on venait de travailler pendant, parce que ça faisait au moins 2 ans que je le suivais. Donc voilà, c'était vraiment un moment magique, clairement. Ça, c'était il y a 2 ans. Maintenant, il dit plein de choses. Il nous regarde dans les yeux. Il cherche plus ses doigts quand il fait des signes, etc. Et ça aussi, tous les jours, quand je le vois occupé à signer, je me dis, mon Dieu, tout le travail qui a été fait pour qu'il puisse s'approprier son corps, qu'il puisse être dedans, se concentrer sur ses mains, etc. C'est là, quoi. Ça y est. Et ça, c'est des moments, c'est des pépites, quoi. C'est vraiment des pépites.
J'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de psychomotricien ? Comment est-ce que toi, tu le définis ?
Alors, je pense que c'est la question la plus dure à poser à un psychomotricien parce que, enfin, on dit toujours que la psychomote, elle est un peu entre plusieurs concepts, autres métiers, etc. Et donc, on dit toujours qu'on est un peu entre le kiné et le psy, les neurosciences et la psychologie, entre les aspects psychocorporels et les aspects biomédicaux. Parce qu'en plus, voilà, c'est une profession assez jeune. Ça fait de 40 ans que vraiment, il y a des formations qui existent, qu'il y a vraiment des professionnels sur le terrain, etc. Mais, si on doit le définir, je dirais que c'est vraiment travailler ce qu'on appelle le corps en relation. C'est-à-dire, c'est pas uniquement le corps dans ses fonctions biologiques, mécaniques, etc. Mais c'est vraiment comment, avec ce corps, on va se mettre en relation à soi, à l'autre, à l'environnement, à l'espace. Les outils qu'on utilise, c'est vraiment notre corps, le jeu, la spontanéité, la rencontre, le mouvement, tous ces éléments-là qui sont vraiment nos outils de base.
Et c'est un métier qui s'adresse à quel type de public ?
C'est presque de la préconception jusqu'à la mort, parce qu'on peut très bien accompagner des parents, on peut accompagner une maman qui est enceinte. On dit toujours qu'à chaque étape de la vie, la dynamique psychomotrice est revisitée. Donc, en intra-utérin, il y a déjà une certaine dynamique psychomotrice, puis à la naissance, il y a une autre dynamique psychomotrice, puis à l'adolescence, elle est à nouveau revisitée, à l'âge adulte, elle est revisitée encore une fois. Et donc, c'est à chaque étape, un psychomote peut aider en fonction des difficultés, des troubles, des blocages, des envies aussi, des désirs de mieux se connaître, de mieux apprivoiser son corps, etc.
Ok, donc c'est vraiment un métier qui va accompagner l'humain en faisant le lien entre le corps et l'esprit.
Oui, c'est ça. Il va accompagner vraiment l'humain dans sa manière dont il va incarner son corps. Voilà, comment il va vivre son corps, qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau psychologique, mais aussi relationnel, au niveau estime de soi, dans toutes les dimensions. C'est pour ça qu'on dit que c'est un métier holistique, parce que vraiment, on essaye vraiment d'aborder toutes les dimensions de la relation, du corps, du psychisme, etc.
Et qu'est-ce qui va le différencier d'autres métiers comme la kiné, l'ergo, voire même le prof de gym qui travaille beaucoup avec le corps?
Je dirais vraiment que ce qui est spécifique aux psychomotriciens, c'est vraiment la question du dialogue tonico-émotionnel. Parce que, par exemple, les émotions, tous les aspects relationnels, on va pouvoir le trouver chez le psy. Le corps dans son fonctionnement, etc., on va pouvoir le trouver chez le kiné. Mais le lien qu'il y a entre les deux et qu'est-ce qui se dit à travers ce dialogue tonico-émotionnel, comment les émotions viennent impacter le tonus et comment, en tant que professionnel, on peut voir des choses qui se passent à travers toute cette manière d'habiter son corps, de mettre son corps en relation à l'espace, au temps, etc. Et ben c'est là que nous, on va avoir notre spécificité de pouvoir apporter ce regard-là, ce point de vue-là qui est plus dans cette liaison qu'il y a entre cet aspect tonique qui raconte des choses et l'aspect émotionnel. Et comment, quand on dit émotionnel, c'est vraiment l'aspect de comment la personne va venir rentrer dans ce tonus-là et quelle couleur il va donner, quel tempérament, quelle ambiance il va donner à ce tonus-là. Mais c'est vraiment comme l'aspect de quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes encore rien dit, mais vous sentez déjà un truc, quoi. Il y a déjà quelque chose qui se passe au niveau tonique. Vraiment, il y a un truc qui se crispe chez vous, il y a le ventre qui se noue, il y a les yeux qui se plissent, il y a un truc qui se passe dans le corps qui fait que vous dites, il y a quelque chose qui se passe. Ben voilà, nous, on apprend à essayer de décoder ça.
Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier?
Moi, j'avais très peur quand j'étais vraiment petit, d'avoir un métier où je m'ennuie, où je me dis, je fais toujours la même chose. C'est vraiment, j'horripilais ça. Même quand je faisais mes jobs étudiants, où voilà, il fallait faire tous les jours la même chose, encoder les trucs. C'est vraiment pas mon truc. Moi, il me faut des trucs où même si je fais la même chose, c'est pas exactement la même chose. Et ça, c'est clair que dans le métier que je fais, c'est comme ça tous les jours, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est salvateur pour moi. J'aurais pas pu sinon tenir, je pourrais pas faire 10, 15, 20 ans le même métier, quoi, si c'était pas dans ce cadre-là. À la base, je me dirigeais vraiment genre infirmier urgentiste, enfin les trucs un peu trashouille, c'était mon truc, on va dire. Puis voilà, il a fallu être réaliste en se disant tiens, les sciences c'est pas trop mon truc, donc voilà. Mais il y avait la question d'aider les gens, d'être là pour eux. Et du coup voilà, je me suis un peu dirigé vers la psycho. J'ai adoré mes études de psycho, mais en sortant de là, donc j'ai fait un bachelier, je me suis dit il me manque un truc. Et en fait, dans mes études de psycho, il y avait une orientation psychomote, donc j'avais déjà eu quelques cours, quelques éléments, j'avais déjà fait quelques stages en psychomote, et je me suis vraiment dit mais en fait c'est ça, quoi, c'est le corps, le mouvement, tout ce qui va avant le verbal. Je suis très intuitif aussi, et donc pouvoir utiliser mon intuition, utiliser ce qui se passe dans mon corps, c'est vraiment ça après qui m'a dit ok, hop, c'est parti, on se redirige vers la psychomote et on y va à fond. Et depuis, avant là, je pourrais pas faire autre chose, quoi, clairement.
Et donc, tu es passé par une spécialisation et pas, tu n'as pas recommencé le bachelier de psychomotricité.
Non, j'ai bien recommencé le bachelier parce okay. qu'au moment en fait, où je finissais mes études de psycho, et au même moment, le bachelier en psychomote commençait. Et donc, toutes les spécialisations, en tout cas, les spécialisations qui forment vraiment au métier de psychomotricien et qui ne sont pas juste un petit plus par rapport à notre diplôme de base, ça passait en bachelier. Et donc, du coup, ben voilà, j'ai fini mon bachelier. Je le finissais en début septembre et mi-septembre, je recommençais mon deuxième bachelier. Pour faire la psychomote, quoi.
Et la formation en tant que telle, elle consiste en quoi ? Il y a plus de pratique, il y a plus de théorique. Tu peux un peu nous en parler ?
Ouais, alors c'est vraiment une alliance des deux, hein, parce que y a un auteur en psychomote qui dit toujours que le psychomote, il est un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'à la fois, il est là avec tout ce qu'il est, son intuition, etc. Mais à la fois, il doit avoir un pied dehors pour réfléchir, pour aller chercher ses cours théoriques, pour aller chercher toute la réflexion et tout l'aspect scientifique, l'aspect cadré, etc. Il y a énormément d'heures de corporel où on va travailler le corps. D'abord, c'est vraiment qui je suis, comment fonctionne mon corps, c'est quoi des ressentis, quelle est ma propre dynamique.
Et connaître finalement ton corps avant d'aider les autres.
Oui, parce que c'est le premier outil, c'est avant tout le reste, c'est d'abord son corps. Un psychomote, il peut avoir zéro matériel, il a son corps, il sait déjà travailler, mais parce qu'on a bossé pendant des années tous ces éléments-là, de c'est quoi mon corps, comment il fonctionne.
Comment est-ce que tu apprends à connaître ton corps ?
En tout cas, il y a plusieurs pôles, mais en général, ça se met autour d'un pôle, ce qu'on appelle in, en tout cas intracorporel. Donc, c'est tout ce qui est autour de relaxation, eutonie, etc. Et donc, on va faire tout un travail de régulation tonique. Et donc, on va passer des heures couchées au sol à réguler son tonus, à jouer avec des balles de tennis, des bouts de bambou, des bâtons de bambou et des choses comme ça pour réguler le plus possible son tonus, etc. Puis, il y a un pôle qui est un peu plus ce qu'on appelle out. Et là, c'est vraiment... on va travailler, ben, c'est quoi l'expressivité des émotions, comment travailler son corps pour exprimer des choses, pour l'utiliser comme outil de mise en relation, etc. Et puis, il y a l'aspect un peu plus ce qu'on appelle relationnel, où là, on va travailler, ben, par exemple, on va travailler le regard, et ben, comment dans le regard, je vais mettre en contact avec l'autre. On va passer des heures et des heures et des heures à aller chipoter dans tous ces endroits-là, vraiment, tout au long. Et au plus on avance dans la formation, au plus tous ces éléments-là vont être au service de l'autre. Ce que je connais de moi, ce que je connais du corps, du fonctionnement du corps, etc., ben je vais le mettre au service du besoin de l'autre. Donc vraiment, c'est la partie pratique, corporelle. Il y a beaucoup de stages aussi, parce que voilà, le métier de psychomotricien, c'est un métier expérientiel, dans le sens il faut le faire, quoi. Il faut être dedans, il faut bouger son corps pour pouvoir saisir ce qu'on essaye de nous raconter. Et puis, on a tous les cours neurosciences, beaucoup de cours de psycho aussi, des cours d'analyse. Parce que voilà, quand on est avec quelqu'un, entre guillemets, qui n'a pas de difficultés, ben voilà, l'action tonique, la mise en relation, c'est assez facile. Mais quand on est avec quelqu'un qui a des troubles, qui ne sait pas regarder parce que c'est trop compliqué pour lui, ou qui a des troubles moteurs et qui ne sait pas lever la tête, en équipe pédagogique, on en rigole souvent en disant que c'est un peu un éléphant qu'on met dans un petit vase en porcelaine, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans assez peu d'années pour finir, puisque c'est un bachelier. Mais vraiment, c'est le fait d'expérimenter, de se mettre dedans, d'utiliser son corps qui permet vraiment de développer tout ça, quoi.
C'est assez génial d'avoir une formation où tu apprends tellement de choses sur toi.
Oui.
C'est rare quand même de travailler sur soi et d'obliger finalement l'étudiant à travailler sur soi avant d'aller travailler avec les autres.
Oui, c'est ce qui est déroutant. D'ailleurs, en général, en première, ils arrivent, ils disent « Quoi, je tombe ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Pourquoi ils me font faire tout ça ? J'ai pas envie d'aller débroussailler tout ça, moi. » Mais après, il y a du plaisir qui naît à aller chercher ces éléments-là, et ce qui permet aussi de se dire « On n'est pas en thérapie non plus, quoi. Hein, on reste dans un cadre pédagogique. » Et donc, d'aller chercher ces éléments-là comme des outils, comme une meilleure connaissance de soi pour aller en relation à l'autre. Et c'est clair qu'à partir du moment où on est dans ce qu'on appelle le dialogue tonico-émotionnel, on peut pas faire autrement que d'être soi. Quand on est psychomote, c'est vraiment la même chose. Il faut être authentique dans qui on est pour pouvoir accompagner les autres.
Et finalement, l'authenticité, c'est quelque chose qu'on entend chez tous les travailleurs du social et de la santé qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant. C'est le premier conseil qu'ils donnent dans la relation à l'autre, c'est d'être en confiance avec soi et d'être authentique, sinon ça marche pas, quoi.
Oui, bah ça, je suis vraiment persuadé de ça, que dans le social, il n'y a pas le choix. Il faut y aller avec qui on est. Comme on est, avec nos forces, mais aussi nos limites, et pouvoir dire à des moments, bah, ça, je sais pas le faire, ou pas comme ça, en tout cas, parce que là, ça vient me chercher dans des trucs qui sont pas possibles, parce qu'on a affaire à l'autre, en plus dans la détresse en général, en tout cas dans la difficulté, et quand l'autre, il est dans la difficulté, il a besoin de quelqu'un en face de lui qui soit vrai, qui soit là, qui soit réellement là, même s'il peut pas faire grand chose, mais juste d'être là, déjà, ça aide, et d'être là en qui on est, avec toutes nos forces, nos faiblesses, notre histoire. C'est aussi pour ça qu'en psychomote, on travaille beaucoup ça. On travaille tous les aspects aussi de, ma dynamique, mais aussi ma dynamique par rapport à mon histoire, à qui je suis, à comment j'ai grandi, à ce que mon corps a subi, entre guillemets, ou la manière dont il s'est construit pour faire face à tous les éléments.
Les stages t'ont appris à décoder justement tous ces outils pendant ton bachelier ?
Ce qui est intéressant aussi, c'est que les stages, on les fait aussi bien en crèche qu'en école maternelle, que ce qu'on appelle en éducation-prévention, donc par exemple tout ce qui est extrascolaire, que tout ce qui est du côté, en tout cas soins, accompagnement, aide, thérapie. Donc vraiment, on essaye de toucher à tous les champs pour pouvoir vraiment se confronter à ça le plus, le mieux possible. Et moi, vraiment, mes stages m'ont plus permis en fait de révéler tout ce que j'avais appris dans mes cours et de me dire « Ah ok, c'est comme ça que je les imbrique l'un à l'autre pour pouvoir être là pour l'enfant. » C'est vraiment « Tiens, quand l'enfant il fait ça ou il joue de telle manière ou il a telle difficulté. » Vraiment, les stages me permettaient de révéler tous ces éléments-là et du coup de pouvoir ajuster ma manière de travailler avec les outils que j'avais appris dans mon cours. Et aussi les maîtres de stage qui pour moi ont vraiment été des mentors, vraiment des gens qui m'ont aidé un peu à cadrer, à recentrer les interventions qu'on peut faire et pas être là en mode c'est intuitif, je vais y arriver, tout va bien quoi. Non, il faut aussi il faut réfléchir à ce qu'on fait quoi. Et donc les stages servent vraiment à ça aussi.
Tu te souviens toi justement d'une situation où tu t'es un peu pris la claque du débutant au début de ton stage ou pendant tes stages?
Oui, il y en a plein, hein, évidemment. Parce qu'au début, c'est claque sur claque, en vrai. Hein. Surtout quand on commence à aborder les troubles, les pathologies, et qu'on arrive dans des pathologies un peu plus compliquées, un peu plus... où il faut vraiment chercher, quoi, avant d'arriver à quelque chose. Là, c'est souvent claque sur claque. Des moments où je me dis, avec tel enfant, on va aller travailler le regard, j'y vais, je m'approche tout doucement, j'y vais vraiment à tâtons, je m'annonce, parce que c'est compliqué pour cet enfant-là de sentir quelqu'un arriver près de lui, etc. Et puis, au moment où moi, je me sens un peu installé, hop, il se lève et il se barre. Et je dis, ok, inutile. C'est aussi comme ça qu'on apprend, parce que j'avais été sûrement un peu trop vite, ou j'avais n'étais pas suffisamment annoncé, ou j'avais été trop frontal, alors que peut-être quelque chose sur le côté ou par derrière aurait été plus facile à aborder pour lui. Ou des choses comme ça. Voilà, c'est très régulier, des moments comme ça où on se dit, ouais, ça y est, je suis ajusté, je me sens bien. Et puis, pas du tout, en fait. J'avais rien compris.
Tu as su très rapidement que tu voulais travailler avec des enfants ?
À la base, non. À la base, je voulais pas les enfants.
Pourquoi ?
Parce que c'était vraiment les ados qui m'intéressaient, c'est le côté avec les ados, c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Le côté toujours un peu trashouille.
Tu cherchais du trashouille.
Ouais, de nouveau, on est qui on est, quoi. Je veux dire, on y va avec ce qu'on est et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, etc. Donc voilà. Mais en fait, vraiment, au cours de mes stages, je me suis dit, les enfants, c'est génial, quoi. Il y a tellement de trucs qui se passent. Mais du coup, maintenant, j'essaye vraiment d'avoir les deux, quoi. Aussi bien des enfants que des ados. Même si les enfants, je vais pas chez les tout petits parce que, c'est moins mon truc. Et en plus, dans les équipes où je bosse, il y en a d'autres qui sont vachement plus calés que moi. Au niveau des tout petits, mais aussi parce que de nouveau authentique quoi. Les bébés j'aime bien, je peux bosser avec, mais c'est pas là que je kiffe mon travail.
Bon du coup tu sors de tes études et tu te lances sur le marché du travail. Vu que c'est un métier qui était encore assez récent, comment est-ce que tu as senti le marché du travail?
Ouais, c'était assez compliqué hein, parce que en plus moi j'étais aux études au moment où la ministre a sorti sa fameuse lettre où elle disait on reconnaîtra pas les psychomotes et ça va être compliqué quoi.
On en profite alors pour faire une petite parenthèse sur la reconnaissance du métier. Donc si je résume, en 2012, ce fameux bachelier en psychomotricité paramédicale arrive via le ministre de l'enseignement à l'époque, c'était Jean-Claude Marcourt. La même année, notre ministre de la Santé, Madame Onkelings, elle tente de faire justement passer la psychomote comme profession paramédicale auprès de la Commission nationale des professions paramédicales. Malheureusement, c'est donc un avis défavorable qui s'ensuit. Les avis divergent du côté flamand et puis du côté francophone. En 2015, la Mutualité chrétienne prend en charge le remboursement des séances de psychomotricité. Le statut n'est pas complètement fixé jusqu'à 2016, où la ministre de la Santé, à l'époque Maggie de Bloch, met un gros stop à tout ça. Je vais reprendre une de ses citations assez fortes qu'elle avait dites à l'époque. Elle estimait qu'il n'y avait aucun intérêt démontré, en termes de santé publique, de reconnaître et d'ajouter un énième professionnel de la santé pour appliquer des techniques aux patients. Tu t'en souviens de cette époque, du coup?
Oui, tout à fait. Moi, j'étais dans les dernières années de ma formation de psychomote. On voit arriver cette lettre, ben, on a fait une manif et tout. Et donc, oui, 2016, elle donne vraiment un avis qui est défavorable et oui, rend les discussions qui étaient jusque-là possibles, ben, ça les rend de moins en moins possibles, puisque ben, y a une décision claire qui dit que ben, non, il n'y aura pas de reconnaissance paramédicale. Donc, ça a été vraiment très compliqué à vivre. Pour tous, hein, que ce soit les psychomotriciens qui travaillent, il y en a qui travaillent plus de 30 ans, qui disaient, mais donc ça fait 30 ans que je travaille quelque chose que je peux pas, parce que il y avait vraiment la menace d'être dans l'illégalité. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'ouvrent, mais on n'arrive pas à les faire bouger par le fait qu'on est paramédical. On les fait bouger par le fait que sur le terrain, on a une reconnaissance, les mutuelles, comme on l'a dit, nous suivent. Maintenant, depuis, il y a eu Parthénamut qui nous a suivis, il y a Solidaris qui nous suit aussi. Enfin, voilà, donc tout ça progresse aussi. Au niveau des hôpitaux, maintenant, on a une description de fonction, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, toutes des choses comme ça qui font qu'on avance, on avance, mais on les grappille parce qu'en fait, le terrain continue à avancer et le terrain continue à faire ses preuves et pas par ce qu'on espérait. Les aspects plus administratifs, politiques et autres qui nous auraient permis d'aller un peu plus vite de pouvoir déployer la psychomotricité, alors que là, ben, ceux qui travaillent depuis 30 ans, les jeunes diplômés qui doivent tous les jours, face à chaque employeur, face à chaque situation, devoir redire c'est quoi la psychomote, pourquoi on est important, quoi on est différent, quoi on vient s'accrocher, enfin, tout ce qu'on doit obligatoirement à chaque fois, quasiment à chaque entretien d'embauche, quasiment à chaque endroit où on travaille, redéfinir constamment, parce que justement, on n'a pas le soutien et l'appui au niveau politique et autres qui nous permettraient voilà, d'avancer un peu différemment. Voilà, après, la force du terrain montre bien que les psychomètres sont utiles, sont présents et ont toute leur place au milieu du champ social, médical et autres. Donc, voilà, parce qu'on avance vraiment. Tous les jours, il y a des nouveaux postes qui s'ouvrent. Tous les jours, il y a des champs qui n'étaient pas occupés par les psychomotes qui le sont, etc. Donc, en 2016, on était un peu dépité, mais depuis, voilà, on a mûri aussi, hein, faut dire les choses, hein. Le métier a évolué, a pris en compte aussi différents éléments qui ont pu être dits à ce moment-là. Et on a continué le travail, quoi, et ça paye aujourd'hui.
Tu sors de tes études 2016, presque 2017. Un peu dépité, du coup, quand tu arrives sur le marché du travail, ou ça va? T'étais motivé
Oui, non, moi, j'étais ultra motivé. J'ai eu la chance de trouver un emploi assez rapidement, ce qui m'a permis, enfin, c'était un temps partiel, mais ça m'a permis alors, du coup, de me lancer en libéral quasiment en même temps. Et donc, du coup, voilà, ça a été. Et en plus, j'ai trouvé dans un secteur qui me plaisait hyper fort et j'y suis toujours à l'heure actuelle. Donc, mais clairement, je fais partie des profils chanceux parce que il y en a beaucoup d'autres qui ont vraiment galéré pendant plusieurs années avant de trouver un emploi, avant de trouver un poste qui leur plaît, avant de pouvoir se lancer en tant qu'indépendant, parce qu'en fait la plus forte demande vient du côté du libéral, où c'est vraiment les neuropédiatres, les pédopsychiatres, les PMS, les écoles qui nous envoient vraiment énormément de patientèle. Et là, bah, il faut y être en tant qu'indépendant, mais se lancer en tant qu'indépendant aujourd'hui en Belgique, c'est pas si évident que ça. Et donc,
ça voilà. L'était encore moins en 2016.
Ah oui, c'est clair, ça l'était encore moins. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui permet aussi aux jeunes diplômés de se lancer. C'est en général de trouver un petit salarié d'un côté et à côté pouvoir travailler en tant qu'indépendant. Moi, j'ai eu de la chance parce que aussi dans mon dernier endroit de stage, ils m'ont tout de suite engagé en tant qu'en libéral. Et donc, du coup, j'ai pu profiter aussi de personnes qui travaillaient depuis longtemps. Et vraiment, c'est ce que je conseille aux jeunes diplômés, c'est d'essayer d'intégrer des équipes où il y a déjà des psychomotriciens qui sont là, qui ont déjà un certain réseau, qui ont une connaissance des difficultés qu'on peut rencontrer une fois qu'on est avec son diplôme en poche et qu'on est face tout seul, plus avec son maître de stage, plus avec le professeur derrière qui vient corriger. Eh ben, c'est autre chose, quoi. Et donc, d'avoir une équipe qui fait ça, qui a un peu l'habitude, qui connaît, qui peut driver, qui peut donner des conseils, etc. Moi, c'est ce que vraiment je conseille aux jeunes.
Préparer un peu le terrain.
C'est ça, d'aller dans des endroits où ils sont pas tout seuls, où ils sont pas livrés à eux-mêmes, et ils peuvent s'appuyer sur d'autres pour pouvoir se lancer.
Et toi, ton premier emploi, c'était où, du coup?
Eh ben, c'est où je bosse, hein, dans un centre thérapeutique pour enfants sourds, et il y a une psychopathologie, toujours long à dire. Parce qu'on parle de psychopathologie, on parle de psychopathologie lourde, associé à de la surdité, donc double diagnostic. Voilà, j'ai eu quelques claques au départ, hein, mais de nouveau, on était en équipe avec psychiatres, plusieurs psy, enfin il y avait deux psys, des logopèdes, une équipe d'éducateurs, des gens qui travaillent là depuis plus de 10 ans, des supervisions institutionnelles. Ça permet de se lancer et d'essayer des choses
et ta journée type, elle consiste en quoi?
C'est très, très variable. Je pourrais presque raconter une semaine, quoi. Mais en général...
Ta semaine type, alors?
En général, c'est vraiment, par exemple, dans l'institution, bah, y a vraiment d'abord l'accueil des enfants qu'on fait tous ensemble, on prend le temps avec eux de se poser, etc. Mais là, même si on est tous ensemble et que c'est un moment un peu informel ou c'est pas en séance, etc., tous mes outils psychométriciens sont là. Je les aborde avec mon corps, je les aborde avec tous les outils que j'ai pu apprendre dans ma formation et à la suite dans mes expériences, etc. Bah, je les aborde en tant que psychométricien et c'est ça aussi la richesse du travail en équipe. Puis après, ben voilà, il y a un petit temps d'accueil en plus petit groupe où on fait des choses un peu plus, voilà, quel jour on est, c'est quoi la météo. Enfin voilà, pour essayer un peu de les situer dans le temps, dans l'espace, pour qu'ils puissent s'intéresser à l'environnement, etc. Et puis ensuite, voilà, il y a les activités qui démarrent, et c'est à ce moment-là, moi, en général, que j'ai des prises en charge. Souvent, j'ai aussi bien des prises en charge en individuel qu'en petits groupes au sein de l'institution. Mais donc voilà, il y a la séance avec le petit temps d'accueil, pour faire la transition, puis un temps de jeu, leur dire à quoi tu as envie de jouer aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et je les suis dans leur jeu tout en ayant dans ma tête, ben, c'est quoi les objectifs pour cet enfant-là, c'est quoi sa pathologie, qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment ce que j'expliquais précédemment, le pas dedans, je suis dans la spontanéité avec eux, dans mon intuition, et je joue presque comme un petit garçon, mais à la fois, j'ai mon pad dehors qui réfléchit. Et puis voilà, on termine avec un petit dessin, un petit moment pour faire descendre le tonus, hein, parce qu'en général, voilà, ils sautent partout, ils courent, ils me jettent des coussins dessus, ils me font tomber. Enfin voilà, on roule ensemble, on saute au trampoline, enfin on fait plein de trucs. Le tonus est bien activé, et puis on prend un petit temps avant de les ramener chez les éducs. On fait un petit dessin aussi de symboliser ce qu'on a fait ensemble. Et donc ça, c'est en individuel. Mais en groupe, ça se passe à peu près de la même manière. Alors j'essaye d'être un tout petit peu plus à distance pour qu'il y ait vraiment tout l'aspect interaction entre eux, comment s'adapter l'un à l'autre, comment communiquer, parce que c'est beaucoup d'enfants non-verbaux. Enfin, je dis, ils signent pas non plus. Ils n'ont pas d'accès au langage, peu, pour une partie en tout cas. Après, j'accompagne aussi les éducateurs en activité, toujours dans ma fonction de psychomote, mais par exemple, j'ai un temps classe avec l'institutrice. Voilà, peut-être amener une autre manière d'aborder la matière qu'elle doit aborder avec ces enfants-là, une autre manière de les appréhender, une autre disposition d'espace pour qu'ils soient plus à leur aise, etc. Et vraiment, avec cette grille de lecture qu'on a de relation à soi, à l'autre, au temps, à l'espace, bah, réfléchir à l'apprentissage. Donc, voilà, ça, c'est un peu un institution. Une journée type, après, voilà, il y a en libéral, puis il y a des moments où le matin je suis en libéral, l'après-midi je suis en cours, et le lendemain matin je suis en institution, et puis je suis nouveau en cours, enfin voilà, donc sans oublier les réunions pour l'Union, etc.
Il n'y a pas
Donc voilà.
souvent une journée qui se ressemble
Non,
avec
non,
toi.
et c'est très très chargé en général, parce que bah, en tant que psychomote, c'est rare d'avoir un seul salariat, et donc une journée type d'un psychomote, c'est passer d'un endroit à un autre, d'un boulot à un autre, d'une prise en charge thérapeutique à quelque chose plus du côté du soin ou du côté de l'éducation, ou d'aller en crèche, et puis le soir, on a trois patients qui ont des troubles, etc. Et souvent, c'est des journées comme ça pour des psychométriciens, parce que bah, il faut pouvoir grappiller différents endroits où on peut aller travailler, puisque bah, c'est ça aussi une des conséquences de la non-reconnaissance.
J'imagine que ça enrichit la pratique aussi
Oui,
d'avoir autant
ça c'est clair.
de cordes à son arc à développer.
Oui, et puis ça fait du bien aussi, hein, dans le sens où quand on se retrouve toute la journée qu'avec des patients qui sont en difficulté, qui nous amènent dans des trucs lourds et difficiles, ben d'avoir après le lendemain matin des bébés qui vont bien et qui gazouillent, et on doit juste être là dans du soutien au développement, aider un peu les puéricultrices ou l'équipe encadrante. La diversité, ça permet aussi de tenir le coup. Ça permet de dire, OK, je peux travailler comme ça 10 ans, 15 ans, sans problème, parce que je suis pas tout le temps avec des trucs méga lourds, je suis parfois avec des trucs plus légers, je suis aussi avec des choses qui me plaisent différemment, ou qui me permettent de déployer d'autres outils. Ce qu'on fait avec les petits, bah, c'est ce qu'on va déployer autrement avec des pathologies, et donc ça nous réapprend notre métier à chaque fois. Parfois, c'est dur au niveau garder l'énergie, hein, parce qu'il faut s'adapter d'un endroit à un autre, d'une équipe à une autre, etc. Mais une fois qu'on trouve son rythme et qu'on trouve ce qui est ajusté pour soi, et ben ça c'est vraiment hyper enrichissant.
Comment est-ce que toi tu gères la difficulté des pathologies des enfants, personnellement?
Déjà, il y a vraiment les outils du psychomote, hein, qui permettent vraiment de prendre de la distance, de pouvoir identifier qu'est-ce qui vient nous toucher trop fort, etc. Créer un réseau alors avec d'autres psychomotriciens qui travaillent dans la région ou d'autres professionnels qui travaillent dans la région, mais vraiment ne pas être seul, quoi. C'est vraiment pour moi ce qui est le plus important. C'est ça qui fait qu'on tient le coup. Et trouver son rythme, ça c'est hyper important aussi. De pas se surcharger, et d'assez rapidement quand on sent que ça surcharge, essayer de réaménager les choses, parce que sinon c'est très compliqué, quoi.
Toi, tu vas plutôt te nourrir dans la relation à l'autre que justement en te, je sais pas, en décompressant la musique à fond dans ta voiture en rentrant. Tu as besoin de ça, de partager.
Alors, en fait, je fais les deux en vrai. Parce que donc moi, je bosse à peu près 1 heure de chez moi. Et donc, voilà, l'heure dans ma voiture, en général, elle sert à ça. Elle sert à décompresser, à lâcher tout ce que j'ai pu vivre dans ma journée. Mettre la musique à fond, chanter à tue-tête. Au début, ça m'arrivait même de lâcher nerveusement, quoi. J'avais des fous rires ou même pleurer plusieurs fois après des journées. Mais c'était juste lâcher, en fait, tout ce qui s'était passé de la journée pour redémarrer le lendemain. Un peu nettoyer tout ça, quoi. Non, non, il faut les deux. Sauf que ça suffit pas, quoi. Enfin, selon moi, en tout cas, quand on a face à des pathologies lourdes, ça suffit pour de jour en jour, mais dans le long terme, ça suffit pas. À un moment, il faut aller chercher
S'entourer,
d'autres
quoi.
outils, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Clairement, même si, voilà, les vacances, c'est hyper important. Il faut se les prendre. Parce que c'est parfois compliqué, hein. Surtout quand on est en libéral, on a toujours un bilan qui traîne, on a toujours la compta qu'on n'a pas fait, un intervenant externe qu'on n'a pas contacté. Il faut pouvoir mettre un stop et dire, non, non, là, c'est mes 2 semaines de vacances, c'est ma semaine de vacances, stop, je le ferai quand je reviens. Mais parfois, c'est compliqué, hein. Sincèrement, parfois, on est là, ouais, mais cet enfant-là, c'est
Oui, parce
l'urgence.
que tu t'attaches aussi. C'est des enfants que tu as envie de suivre sur le long terme aussi.
Oui, puis en plus, on y va authentiquement, hein, comme on le disait, on y va avec qui on est, mais ça veut dire qu'on y va aussi avec nos émotions, même si, de nouveau, on y va du côté professionnel, on y va avec toute notre rigueur, le cadre, toutes les théories qu'on a en tête, etc. Il n'empêche qu'on y va avec qui on est, avec nos émotions, avec ce qui nous plaît, nous déplaît, etc. Donc évidemment qu'on s'attache, mais c'est là où il y a vraiment toute la posture du professionnel qui doit être présente et pouvoir prendre distance, pouvoir se préserver, préserver sa famille. Bon, je sais bien que moi, ma famille, c'est un mes garde-fous, quoi. Quand mes enfants commencent à me dire enfin, ils ont 3 ans, 3, 4 ans, mais ils commencent des fois à me dire, ah, t'es trop sur ton ordinateur, ouais, t'es pas là, reviens t'asseoir à côté de moi. Je lui dis, ok, il est temps, je crois, ce bilan-là, je le ferai demain, je le ferai après-demain, je le ferai quand ils seront au lit ou à un autre moment. Donc voilà, trouver ces garde-fous, c'est aussi nécessaire, quoi.
Tu parlais que tu étais famille d'accueil.
Ouais.
Donc tu te challenges la journée au boulot et puis tu rentres chez toi et tu te challenges à nouveau.
Oui, ouais, en plus c'est des jumeaux, hein, donc voilà.
Tu voulais du trashouille.
Oui, je l'ai dit, hein, ça fait partie de qui je suis, un petit peu le côté trashouille. Enfin voilà, il y avait quelque chose dans la famille d'accueil qui m'attirait très fort et qui me plaisait très fort du côté de on sait d'où ils viennent, on connaît leurs racines, on peut expliquer aux enfants qui sont leurs parents, peut-être qu'ils les rencontreront. Oui, après il y a le risque, hein, qu'un jour ils retournent dans leur famille biologique. Et puis voilà, moi c'est comme ça que j'ai grandi aussi, hein. Mes parents ont été famille d'accueil d'urgence, donc il y a eu régulièrement des enfants qui venaient un week-end, 1 semaine, 3 semaines, 2 mois, parce que les parents étaient en difficulté, la maman devait se faire hospitaliser ou des brutalités dans le couple et la maman devait se cacher pendant un temps et donc l'enfant arrivait chez nous et des choses comme ça. Voilà, ça a fait partie de mon quotidien aussi quand j'étais enfant et du coup voilà, c'est aussi une façon de perpétuer ce genre de choses, quoi. Voilà. Mais en général, quand on est dans le social, c'est jamais pour rien. On a toujours une petite histoire, on a toujours un petit truc qui fait qu'on atterrit dans le social, quoi. C'est rarement pour rien parce que c'est pas là qu'on s'enrichit, c'est pas là que, comment je vais dire ça, on s'enrichit par la relation, par la possibilité de mettre en jeu son histoire, etc. Mais pas par le reste, quoi. Donc du coup, on a toujours un petit truc qui fait que.
Ben, bravo. Dans ta pratique de tous les jours, est-ce que tu as l'impression que tu as évolué là, depuis ces quelques années d'expérience? Il y a des choses qui t'ont fait évoluer au niveau de ton caractère, au niveau de ton approche dans ta vie à la maison?
Déjà pendant les études, hein, parce que comme on l'a dit, dès la première, on travaille sur soi. Donc voilà, c'est vraiment... parfois, c'est pas évident pour l'environnement, enfin pour les gens qui nous entourent d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui changent, qui bougent, et c'est pas facile pour eux. Mais c'est clair qu'en tant que professionnel, ben, c'est encore autre chose, parce que c'est plus de l'apprentissage. On affirme des choses, on les déploie sur le terrain, etc. Et donc, ben, moi, je sais que j'ai gagné vraiment confiance en moi, j'ai gagné en affirmation de qui je suis, de ce que j'aime, de ce que je veux pas. Puis en tant que professionnel, voilà, chaque rencontre apprend quelque chose parce que un trouble n'est, enfin, je veux dire, un même trouble, un enfant qui a le même trouble qu'un autre, c'est pas la même rencontre, c'est pas la même chose qui se passe. Donc c'est pas les mêmes outils qui sont utilisés, pas de la même manière, pas avec la même couleur, pas avec la même intention, etc. Et donc du coup, chaque rencontre au niveau professionnel nous amène à apprendre quelque chose ou à revisiter quelque chose.
Qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier?
Beaucoup de choses. Ouais, c'est dur à choisir en vrai. Moi, il y a l'aspect vraiment de pouvoir faire de mes caractéristiques des forces et des outils pro. Ça, c'est vraiment une chose, je pense, parce que c'est ça qui joue sur l'estime de soi, sur l'affirmation de soi, etc. C'est de se dire, oh, le petit truc que je sens depuis des années, mais que je sais pas comment le déployer, là, bouge, je le mets au service des autres, quoi. Et de façon massive, en plus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de, ouais, où je suis assez fier que la psychomote part de quelque chose qui a été un peu délaissé par les autres, dans le sens, oui, les psys s'intéressent aux aspects émotionnels, relationnels, etc., mais ils ont un peu délaissé le corps. Et d'autres qui s'intéressent au corps, etc., mais ils ont un peu délaissé les aspects, je dirais pas relationnels, hein, mais c'est pas leur outil de travail, quoi. Comme on peut l'être dans la psychomètre, à travers ce corps en relation.
C'est ça qui t'a donné aussi envie de t'engager plus loin dans l'Union belge des psychomotriciens francophones pour laquelle tu es président.
Ouais, en fait, ça part aussi de la manif qu'on a eue en 2016, hein, parce que donc moi j'étais encore étudiant, ça part de là. Et de me dire, un métier qui vient répondre à des besoins, qui vient se caler à un endroit où c'est pas évident d'y être, il faut le soutenir, quoi. Parce que du fait de la non-reconnaissance, c'est aussi une des difficultés, c'est que si on ne tient pas nous, ben, on peut disparaître, quoi, tout simplement, puisqu'il y a pas de, il y a peu d'éléments juridiques, politiques, de lois qui nous imposent à des endroits, etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une union. Il faut qu'il y ait une union qui vienne solliciter les personnes, qui vienne les soutenir, qui vienne trouver des solutions aux problématiques du quotidien, qui vienne chercher les politiques, qui vienne chercher les endroits où on peut asseoir les choses. Et c'est vraiment moi ça qui m'a dit, OK, on y va. Et puis, on a une superbe revue. Je fais un peu 2 minutes de pub, hein, mais c'est important. Toutes les lectures que je fais là-dedans, de lire ce que font les professionnels sur le terrain en Belgique, de lire les réflexions, tous les apports conceptuels de ce qui se fait en Belgique, bah, ça m'a aussi dit, enfin, ça, il faut pas que ça se lâche non plus. Il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent pour ça. Et donc, moi, c'est vraiment tout ça qui m'a amené à me dire, pour ce si beau métier, il faut qu'on y aille, quoi.
T'as une autre manière de t'engager via ton autre casquette de formateur aussi?
Oui, enfin, en tout cas, l'aspect enseignement, c'était ça aussi. C'était de faire perdurer un mouvement que moi j'ai reçu et de faire en sorte que, enfin, vraiment l'alliance entre l'union et l'enseignement, de faire en sorte que les choses continuent à être vues, à être entendues, à être susciter de l'envie, du plaisir, du désir au travers. Enfin, pour ce métier, c'était vraiment aussi ça. Et puis, l'enseignement permet aussi un aspect plus de recherche. Ce qui est aussi quelque chose qui m'intéresse, parce que pour qu'un métier persiste, il faut aussi qu'il puisse prouver, entre guillemets, qu'il puisse en tout cas démontrer qu'est-ce qu'il apporte, puisque c'était une des choses que disait Maggie de Bloch, il n'y a rien qui dit que, ben maintenant on va vous montrer que si, il y a des choses qui disent que, et on va aller le prouver, et ça se fait aussi au travers des écoles et dans une posture d'enseignant, donc c'est aussi pour ça que j'ai été du côté de l'enseignement, quoi.
Qu'est-ce que tu voudrais dire pour inspirer les jeunes qui peut-être se dirigeraient vers le bachelier en psychomotricité? Fais ta pub justement pour ton métier.
Encore 2 minutes pub. Je dirais vraiment, pour les motiver, c'est vraiment un métier où on va apprendre sur soi, mais dans le service à l'autre. Que si vraiment l'envie, c'est d'accompagner l'autre dans la spontanéité, dans qui on est, mais aussi dans ses compétences corporelles, il faut y aller, quoi. Parce que non seulement on va découvrir sur soi, mais on va découvrir sur comment fonctionne l'autre, comment on peut aider l'autre, et vraiment ce corps en relation. En vrai, il est au cœur de toutes nos rencontres, qu'on soit psychomote ou pas, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et la prendre conscience de cet élément-là, c'est vraiment hyper fondateur pour soi, pour les autres. Enfin voilà. Et donc, je dirais ça. Et puis voilà, une formation où on va aller danser, où on va aller jouer, où on va aller se rouler par terre, où on va se lancer des balles, où on va courir, enfin grimper aux arbres, courir dans l'herbe à pieds nus pour sentir ce que ça fait, etc. Il n'y a pas 36 000 formations où on peut aller faire ce genre de choses, quoi. On passe des heures de cours à faire ça. Et c'est hyper chouette.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous les politiques qui nous écoutent sur l'avenir du métier de psychomotricien? Un monde sans psychomotricien, ce serait quoi?
Et un monde sans psychomotricien, ben, il manquerait une petite pièce quelque part, parce que comme je l'ai dit, on vient s'intercaler là où il y a quelque chose qui n'a pas été investi. Et donc voilà, c'est laisser un espace vide. Un monde sans psychomotricien, c'est aussi un monde qui a des difficultés à faire ce lien entre ses aspects un peu plus oui, corporels, intuitifs, spontanés, et ses aspects un peu plus scientifiques, cadrés, qui sont tout à fait nécessaires. Mais à quel moment on fait le lien? Ben, en psychomote, on le fait constamment dans chaque rencontre, etc. Et donc voilà, c'est un monde où en tout cas une part de ça risque de passer à la trappe, et c'est tellement dommage. Voilà, les bénéfices, ils sont là tous les jours. Les patients nous appellent, nous rappellent. Il faut aussi écouter les directeurs d'institutions, il faut aussi écouter les patients qui disent tous les jours que oui, si, ça les a aidés et qu'ils avaient essayé d'autres choses avant. C'est pas qu'ils n'avaient pas aidé, c'est juste qu'ils n'avaient pas touché à un endroit, que c'était là qu'ils avaient besoin d'être accueillis, accompagnés, etc. Donc voilà, tout ça, il faut l'entendre, quoi.
On va terminer cette chouette rencontre par une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu aurais, dans l'envie d'inspirer les gens autour de nous, un livre, un film, une musique, quoi que ce soit, à conseiller pour les gens qui sont soit intéressés par le domaine de la psychomotricité, mais aussi peut-être par le secteur du handicap chez les enfants?
De réfléchir ça. Moi j'aurais plutôt envie de parler d'un moment alors, plus que d'essayer plutôt d'aller chercher un moment quand on écoute par exemple sa musique ou on lit son bouquin et c'est le moment où on a l'impression que tout est aligné, tout est là, que à la fois on est bien-être, à la fois on se met à réfléchir, à la fois on occupe à rêvasser, à la fois on construit un monde meilleur et à la fois on occupe à s'auto-guérir de quelque chose. Et c'est vraiment ce moment-là, pour moi, ça représente mon métier, quoi. Ce moment où on se sent aligné, où on sent parce qu'on est occupé à lire un truc qui occupe à nous embarquer, je sais pas où on est occupé à écouter une musique qui occupe à nous enrober de quelque chose, qui nous fait du bien, qui nous soigne un peu. Ben pour moi, c'est ça un peu mon métier. C'est à ça que je proposerais de se connecter pour pouvoir le saisir, quoi.
Eh bien, merci Massimo. Je crois que tu nous as tous envie de donner l'envie de devenir psychomotricien aujourd'hui. Mille merci pour ton témoignage.
Avec grand plaisir.
Et puis bonne continuation et
Merci
à
beaucoup.
bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aime-mon-métier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt!